pourquoi cette passion de la langue française?
Cette passion de la langue française, parce que c'est une langue belle.
Léopold Sédar Senghor.
Et les négros africains qui sont sensibles au rythme, à la mélodie, l'ont remarqué. Et je me rappelle quand j'ai commencé d'apprendre le français, je mangeais les mots comme de la confiture.
Ça peut pas faire de mal.
C'est une langue pas chantante, car le rythme du français qui est sur la dernière syllabe non muette est un rythme d'intensité et non pas un rythme de hauteur. C'est une langue monotone, oui, mais c'est peut-être pour moi ce qui fait sa poésie.
Lecture proposée par Guillaume Gallienne.
Ça peut pas faire de mal. Bon Dieu que j'ai envie d'écrire un petit poème. Tiens, en voilà justement un qui passe. Petit, 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 viens ici que je t'enfile sur le fil du collier de mes autres poèmes. Viens ici que je t'entube dans le comprimé de mes œuvres complètes. Viens ici que je t'en papouette et que je t'en rime et que je t'en rythme et que je t'en lire et que je t'en pégase et que je t'en verse et que je t'en prose. La vache. Il a foutu le camp. C'est avec Raymond Queneau que nous ouvrons cette émission consacrée à la 18e édition du Printemps des Poètes. Comme chaque année, nous partons à la découverte de la poésie, comme jeu littéraire ou comme remède au désespoir. Et ce sont les poètes francophones du XXe siècle qui sont à l'honneur dès aujourd'hui et jusqu'au 20 mars prochain. De Guillaume Apollinaire à Abdelatif Lahabi, en passant par Senghor, Desnos, je vous propose ce soir de traverser l'histoire du siècle dernier en leur compagnie et de célébrer par la même occasion les 50 ans de la collection Poésie Gallimard, créée en 1966 par André Walter. Commençons notre traversée du XXe siècle avec un des précurseurs de la révolution poétique, Guillaume Apollinaire. En 1913, avec son recueil Alcool, il veut faire table rase du passé. À la fin, tu es là, de ce monde ancien, bergère aux tours Eiffel, le troupeau des ponts belles ce matin. Tu en as assez de vivre dans l'antiquité grecque et romaine. Ce sont les premiers mots du poème Zone qui va prendre des allures de manifeste esthétique. À l'aube du premier conflit mondial et après les règnes de Baudelaire, Rimbaud et Mallarmé, Apollinaire cherche une nouvelle manière de déchiffrer le monde. Il s'essaie alors au vers libre, au calligramme, et casse la logique des rimes. Perdu, sans repère dans les rues d'une ville grise et agitée, le poète cherche son chemin. Maintenant, tu marches dans Paris, tout seul, parmi la foule. Des troupeaux d'autobus mugissant près de toi roulent. L'angoisse de l'amour te serre le gosier, comme si tu ne devais jamais plus être aimé. Si tu vivais dans l'ancien temps, tu entrerais dans un monastère. Vous avez honte quand vous vous surprenez à dire une prière. Tu te moques de toi et comme le feu de l'enfer, ton rire pétille. Les étincelles de ton rire dorent le fond de ta vie. C'est un tableau pendu dans un sombre musée et quelquefois tu vas la regarder de près. Aujourd'hui tu marches dans Paris, les femmes sont ensanglantées. C'était, et je voudrais ne pas m'en souvenir, c'était au déclin de la beauté. Maintenant tu es au bord de la Méditerranée. Sous les citronniers qui sont en fleurs toute l'année, avec tes amis, tu te promènes en barque. L'un est Nissar, il y a un Antonasque et deux Turbiasques. Nous regardons avec effroi les poulpes des profondeurs. Et parmi les algues nagent les poissons, image du sauveur. Tu es dans le jardin d'une auberge aux environs de Prague. Tu te sens tout heureux, une rose est sur la table. Et tu observes, au lieu d'écrire ton conte en prose, l'acétoine qui dort dans le cœur de la rose. Épouvanté, tu te vois dessiner dans les agates de Saint-Vite. Tu étais triste à mourir le jour où tu t'y vis. Tu ressembles au Lazare affolé par le jour. Les aiguilles de l'horloge du quartier juif vont à rebours. Et tu recules aussi dans ta vie lentement, en montant au Hradčín et le soir en écoutant dans les tavernes chanter des chansons tchèques. Te voici à Marseille au milieu des pastèques. Te voici à Coblence à l'hôtel du Géant. Te voici à Rome assis sous un effilier du Japon. Tu es debout devant le zinc d'un bar crapuleux. Tu prends un café à deux sous parmi les malheureux. Tu es la nuit dans un grand restaurant. Tu es seul, le matin va venir. Les laitiers vont teinter leurs bidons dans les rues. La nuit s'éloigne ainsi qu'une belle métive. C'est Ferdine la fausse ou Léa l'attentive. Et tu bois cet alcool brûlant comme ta vie. Ta vie que tu bois comme une eau de vie. Tu marches vers Auteuil, tu veux aller chez toi à pied. Dormir parmi tes fétiches d'Océanie et de Guinée. Ils sont des Christs d'une autre forme et d'une autre croyance. Ce sont les Christs inférieurs des obscures espérances. Adieu. Soleil, cou coupé. Toujours les yeux rivés vers le futur, Apollinaire engage les hommes à le suivre. Voici un autre de ses poèmes écrits en 1916, intitulé « Avenir ». Soulevons la paille, regardons la neige, écrivons des lettres, attendons des ordres. Fumons la pipe en songeant à l'amour, les deux tours sont là, regardons la rose. La fontaine n'a pas tari, pas plus que l'or de la paille ne s'éternit. Regardons l'abeille et ne songeons pas à l'avenir. Regardons nos mains, qui sont la neige, la rose et l'abeille, ainsi que l'avenir. D'autres poètes vont bientôt lui emboîter le pas. L'un d'eux s'appelle Paul Éluard.
La poésie n'est pas un métier, c'est une fonction. Je ne peux m'empêcher d'écrire et c'est le seul moyen que j'ai trouvé dans ma vie d'être libre. J'écris depuis l'âge de 14 ans des poèmes et j'ai toujours l'impression malheureusement de me répéter. Mes sujets, que ce soit la nature, l'amour, mes aventures intimes ou les faits extérieurs, je suis devant eux avec des réactions qui me paraissent à moi, qui suis mauvais juge, profondes ou puériles, mais je n'y peux rien. Le poète fait ce qu'il peut et non ce qu'il veut.
Au sortir de la Grande Guerre en 1918, il s'affiche aux côtés des dadaïstes. Ce mouvement de contestation et de renouveau artistique est apparu quelques années plus tôt en Suisse et s'est rapidement développé en Europe, notamment grâce à Tristan Tzara. Éluard et son ami André Breton fondent ensuite le mouvement surréaliste qui veut changer la vie et transformer le monde. Subversive et enthousiaste, la poésie d'Éluard est un perpétuel élan vers l'inconnu. Voici le grand jour. Viens, monte. Bientôt les plumes les plus légères, scaphandriers de l'air, te tiendront par le cou. La terre ne porte que le nécessaire et tes oiseaux de belle espèce sourire. Au lieu de ta tristesse, comme une ombre derrière l'amour, le paysage couvre tout. Viens vite, cours, et ton corps va plus vite que tes pensées. Mais rien, entends-tu, rien ne peut te dépasser. L'un des thèmes de prédilection d'Éluard, c'est l'amour. Voici Certitude. Si je te parle, c'est pour mieux t'entendre. Si je t'entends, je suis sûr de te comprendre. Si tu souris, c'est pour mieux m'envahir. Si tu souris, je vois le monde entier. Si je t'étreins, c'est pour me continuer. Si nous vivons, tout sera à plaisir. Si je te quitte, nous nous souviendrons. En te quittant, nous nous retrouverons. Ce que la poésie d'Éluard donne merveilleusement à voir, c'est surtout le corps sublimé de la femme aimée. Voici quelques-uns de ses célèbres poèmes. La courbe de tes yeux. La courbe de tes yeux fait le tour de mon cœur, un rond de danse et de douceur. Auréole du temps, berceau nocturne et sûr. Et si je ne sais plus tout ce que j'ai vécu, c'est que tes yeux ne m'ont pas toujours vu. Feuilles de jour et mousse de rosée, roseaux du vent, sourire parfumé, ailes couvrant le monde de lumière, bateaux chargés du ciel et de la mer, chasseurs des bruits et sources des couleurs, parfums éclos d'une couvée d'aurore qui gît toujours sur la paille des astres, comme le jour dépend de l'innocence. Le monde entier dépend de tes yeux purs et tout mon sang coule dans leur regard. Découvrons çà et là d'autres détails du visage aimé. Ta chevelure d'orange dans le vide du monde, dans le vide des vitres lourdes de silence et d'ombre où mes mains nues cherchent tous tes reflets. La forme de ton cœur est chimérique et ton amour ressemble à mon désir perdu. ô soupir d'ambre, rêve, regard. Mais tu n'as pas toujours été avec moi. Ma mémoire est encore obscurcie de t'avoir vu venir et partir. Le temps se sert de mots comme l'amour. Ta bouche aux lèvres d'or n'est pas en moi pour rire, et tes mots d'auréole ont un sens si parfait que dans mes nuits d'années, de jeunesse et de mort, j'entends vibrer ta voix dans tous les bruits du monde. Dans cette aube de soie où végète le froid, la luxure en péril regrette le sommeil. Dans les mains du soleil, tous les corps qui s'éveillent grelottent à l'idée de retrouver leur cœur. Souvenir de bois vert, brouillard où je m'enfonce, j'ai refermé les yeux sur moi, je suis à toi. Toute ma vie t'écoute et je ne peux détruire les terribles loisirs que ton amour me crée.
La poésie doit, étant le premier des arts, porter sens plus que les autres arts. Et pour porter sens, il faut que le poète soit sincère. Je ne crois pas qu'on puisse me citer un seul poète qui ait menti.
Dépression au-dessus du jardin.
Dépression au-dessus d'un jardin.
Ton expression est au chagrin.
Ton expression est au chagrin.
Tu as lâché ma main.
Tu as lâché ma main comme si de rien n'était de l'été. C'est la fin.
C'est la fin.
Les fleurs ont perdu leur parfum.
Qu'emporte un à un.
Qu'emporte un à un.
Le temps assassin.
Le temps assassin. Dépression au-dessus d'un jardin.
J'ai l'impression que c'est la fin.
J'ai l'impression que c'est la fin. Je te sens soudain tellement lointain.
Je te sens soudain tellement lointain.
Tu t'égares et on chante.
Tu essayes de me faire croire enfin que l'amour revient.
Que l'amour reviendra
l'été prochain.
L'été prochain. L'été prochain.
Ça peut pas faire de mal. Lecture proposée par Guillaume Gallienne.
Le désir, le corps, la femme aimée, ces thèmes ont eux aussi été ceux de Robert Desnos, un proche d'Éluard. L'érotisme est partout présent dans son œuvre, la preuve avec ce poème « Si tu savais ». Loin de moi et semblable aux étoiles, à la mer et à tous les accessoires de la mythologie poétique, loin de moi et cependant présente à ton insu, loin de moi et plus silencieuse encore parce que je t'imagine sans cesse, loin de moi, mon joli mirage et mon rêve éternel, tu ne peux pas savoir si tu savais. Loin de moi et peut-être davantage encore de m'ignorer et m'ignorer encore. Loin de moi parce que tu ne m'aimes pas sans doute ou ce qui revient au même que j'en doute. Loin de moi parce que tu ignores sciemment mes désirs passionnés. Loin de moi parce que tu es cruel, si tu savais. Loin de moi, ô joyeuse comme la fleur qui danse dans la rivière au bout de sa tige aquatique, ô triste comme 7 heures du soir dans les champignonnières. Loin de moi, silencieuse encore ainsi qu'en ma présence et joyeuse encore comme l'heure en forme de cigogne qui tombe de haut. Loin de moi, à l'instant où chantent les alambics, à l'instant où la mer silencieuse et bruyante se replie sur les oreillers blancs, si tu savais. Loin de moi, ô mon présent, présent tourment, loin de moi, au bruit magnifique des coquilles d'huîtres qui se brisent sous le pas d'une octambule, au petit jour quand il passe devant la porte des restaurants, si tu savais. Loin Loin de moi, volontaire et matériel mirage. Loin de moi, c'est une île qui se détourne au passage des navires. Loin de moi, un calme troupeau de bœufs se trompe de chemin, s'arrête obstinément au bord d'un profond précipice. Loin de moi, ô cruel. Loin de moi, une étoile filante choit dans la bouteille nocturne du poète. Il met vivement le bouchon et dès lors, il guette l'étoile enclose dans le verre. Il guette les constellations qui naissent sur les parois. Loin de moi, tu es loin de moi. Si tu savais. Loin de moi, une maison s'achève d'être construite. Un maçon en blouse blanche au sommet de l'échafaudage chante une petite chanson très triste. Et soudain, dans le récipient empli de mortier, apparaît le futur de la maison. Les baisers des amants et les suicides à deux. Et la nudité dans les chambres des belles inconnues. Et leurs rêves même à minuit. Et les secrets voluptueux surpris par les lames de parquet. Loin de moi, si tu savais. Si tu savais comme je t'aime, et bien que tu ne m'aimes pas, comme je suis joyeux, comme je suis robuste et fier de sortir avec ton image en tête, de sortir de l'univers, comme je suis joyeux à en mourir. Si tu savais comme le monde m'est soumis, et toi, belle insoumise aussi, comme tu es ma prisonnière, ô toi, loin de moi à qui je suis soumis, si tu savais. Éluard Desnos, breton. Le quatrième de la bande s'appelle Louis Aragon, qui écrit un texte essentiel en 1974 pour introduire ses œuvres poétiques complètes. Le voici. J'appelle poésie cet envers du temps, ces ténèbres aux yeux grands ouverts, ce domaine passionnel où je me perds, ce soleil nocturne, ce chant maudit aussi bien qui se meurt dans ma gorge ou sonne à la volée les cloches de provocation. J'appelle poésie cette dénégation du jour où les mots disent aussi bien le contraire de ce qu'ils disent que la proclamation de l'interdit, l'aventure du sens ou du non-sens. Ô paroles d'égarement qui êtes l'autre jour. La lumière noire des siècles, les yeux aveuglés d'en avoir tant vu, les oreilles percées à force d'entendre, les bras brisés d'avoir étreint de fureur ou d'amour le fuyant univers des songes, les fantômes du hasard dans leur linceul déchiré, l'imaginaire beauté pareille à l'eau pure des sources perdues. J'appelle poésie la peur, qui prend ton corps tout entier à l'aube frémissante du jouir. Par exemple, l'amour, 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 l'amour. En 1943, il écrit à la fois pour son ami Paul Éluard et publie aussi un long poème intitulé « Le musée Grévin ». Déplorant l'occupation allemande, il s'attaque ici à tous les traîtres qui plongent son pays dans une nuit profonde. Voici, j'écris dans un pays dévasté par la peste. J'écris dans un pays dévasté par la peste, qui semble un cauchemar attardé de Goya, où les chiens n'ont d'espoir que la manne céleste et des squelettes blancs cultivent le soya. Un pays en tous sens parcouru d'escogriffes, à coups de fouet chassant le bétail devant eux. Un pays disputé par l'ongle et par la griffe, sous le ciel sans pitié des jours calamiteux. Un pays pantelant sous le pied des fantoches, labouré jusqu'au cœur par l'ornière des roues, mise en coupe réglée au nom du roi Pétoche, un pays de frayeur en proie aux loups-garous. J'écris dans ce pays où l'on parque les hommes dans l'ordure et la soif, le silence et la faim, où la mère se voit arracher son fils comme si Hérode régnait quand l'aval est dauphin. J'écris dans ce pays que le sang défigure, qui n'est plus qu'un monceau de douleurs et de plaies, une halle à tout vent que la grêle inaugure, une ruine où la mort s'exerce aux osselets. J'écris dans ce pays tandis que la police, à toute heure de nuit, entre dans les maisons, que les inquisiteurs, enfonçant leurs éclisses, dans les membres brisés, guettent les trahisons. J'écris dans ce pays qui souffre mille morts, qui montre à tous les yeux ses blessures pourprées, et la meute sur lui grouillante qui le mord, et les valets sonnant dans le corps la curée. J'écris dans ce pays que les bouchers écorchent et dont je vois les nerfs, les entrailles et les os et dont je vois les bois brûlés comme des torches et sur les blés en feu la fuite des oiseaux. J'écris dans cette nuit profonde et criminelle où j'entends respirer les soldats étrangers et les trains s'étrangler au loin dans les tunnels dont Dieu sait si jamais ils pourront déplonger. J'écris dans ce décor tragique où les acteurs ont perdu leur chemin, leur sommeil et leur rang. Dans ce théâtre vide où les usurpateurs annonnent de grands mots pour les seuls ignorants. J'écris dans la chiourne énorme qui murmure, j'écris dans l'oubliette au soir qui retentit, des messages frappés du poing contre les murs, infligeant aux geôliers d'étranges démentis. Comment voudriez-vous que je parle des fleurs et qu'il n'y ait des cris dans tout ce que j'écris? De l'arc-en-ciel ancien, je n'ai que trois couleurs et les airs que j'aimais, vous les avez proscrits. Que ne puis-je passer ce monde à l'écumoire, ces songes éveillés et ces monstres maudits, du paradis perdu retrouver la mémoire, pour renouer ma phrase avec sa mélodie. Dans son recueil Le roman inachevé, Aragon, épuisé par la vie et les événements de l'histoire, cherche une raison de continuer à avancer. Cette raison, il la trouve dans la poésie. Voici la toute fin du poème, parenthèse 56. Allez, reprends en main ton cœur, ton chant, tu es vieux, le temps passe. Au dehors, il faisait un froid exceptionnel ces jours-ci. Tout a gémi sous le poids de la neige et l'haleine des glaces. Et peut-être qu'en toi, comme au laurier, les feuilles ont noirci. Ne compte pas trop sur l'été qui vient. Reprends ton âme lasse. Reprends sans discuter ta strophe, avance. Avance, je te dis. Allez, vas-y la mélodie, vas-y la mécanique. Le drame des Guatemala comme ta propre tragédie. Entre à tout bout de champ dans ton poème, y semant la panique. Allez, vas-y la mécanique, allez, vas-y la mélodie. Écoute, c'est un air très ancien, comme un battement de porte. Au loin, comme un bruit de robe sur le balcon, comme un écho dans la campagne. Au fond de toi, le souffle dur de ton aorte. Laisse les jeunes gens hausser l'épaule et rire aux vers égaux, et même à coups de canne dispersés au vent tes feuilles mortes. Qu'importe, il te faudra chanter jusqu'au bout dans le ciel glacé. Laisse les enfants discuter sérieusement des choses. Ton verre, tu l'as ramassé jadis comme un animal blessé. Laisse-les ouvrir le ventre à leurs jouets, saccager les roses. Je me souviens de comment tout ça s'est passé.
Des mots. Des quartiers de monde, quand nous épousons des continents en délire, quand nous forçons de fumantes portes, des mots, ah oui, des mots, mais des mots de sang frais, des mots qui sont des rats de marée et des hérésipèles et des paludismes et des laves et des feux de brousse et des flambées de chair et des flambées de ville. Sachez-le bien. Je ne joue jamais si ce n'est à l'an mille. Je ne joue jamais si ce n'est à la grande peur. Accommodez-vous de moi. Je ne m'accommode pas de vous.
Quelques années plus tôt, 1931, un jeune Martiniquais arrive en Hippocagne au lycée Louis le Grand, à Paris. Là-bas, il va rencontrer un jeune Sénégalais qui porte de grosses lunettes. C'est le début d'une amitié entre deux poètes majeurs du XXe siècle, Aimé Césaire et Léopold Sédar Senghor. Ensemble, et avec d'autres camarades tels que Léon Gontran Damas et Guy Tyrolien, ils fondent L'étudiant noir, une revue où apparaît pour la première fois le mot « négritude ». Très engagé contre l'idéologie colonialiste, Césaire écrit le désormais célèbre « Cahier d'un retour au pays natal », puis devient, après la Seconde Guerre mondiale, maire de Fort-de-France. En 1946, il publie le recueil « Les armes miraculeuses ». Voici « N'ayez point pitié ». Fumée, marais, les images rupestres de l'inconnu vers moi détournent le silencieux crépuscule de leur rire. Fumée, ô marais, cœur d'oursin. Les étoiles mortes apaisées par tes mains merveilleuses jaillissent de la pulpe de mes yeux. Fumée, fumée, l'obscurité fragile de ma voix craque de cité flamboyante et la pureté irrésistible de ma main appelle de loin, de très loin, du patrimoine héréditaire le zèle victorieux de l'acide dans la chair, de la vie marée. Telle une vipère née de la force blonde de l'éblouissement.
Aimé Césaire.
Le mot nègre sortit tout armé du hurlement d'une fleur vénéneuse. Le mot nègre, tout poicre de parasites. Le mot nègre, tout plein de brigands qui rôdent, de mères qui crient, d'enfants qui pleurent. Le mot nègre, un grésillement de chair qui brûle, acre et de cornes. Le mot nègre, comme le soleil qui saigne de la griffe sous le trottoir des nuages. Le mot nègre, comme le dernier rire vêlé de l'innocence entre les crocs du tigre. Et comme le mot soleil est un claquement de balles, et comme le mot nuit un taffetas qu'on déchire, le mot nègre, dru. Savez-vous, du tonnerre d'un été, que s'arroge des libertés incrédules.
À la même époque, Senghor publie Chant d'ombre. Voici un extrait, Masque nègre. Elle dort et repose sur la candeur du sable. Kumbhatam dort. Une palme verte voile la fièvre des cheveux, cuivre le front courbe. Les paupières closes, coupe double et sources scellées. Ce fin croissant, cette lèvre plus noire et lourde à peine où le sourire de la femme complice. Les patènes des joues, le dessin du menton chante l'accord muet. Visage de masque fermé à l'éphémère. Ses yeux sans matière, tête de bronze parfaite et sa patine de temps, que ne souille phare ni rougeur ni ride, ni trace de larmes ni de baisers, ô visage tel que Dieu t'a créé avant la mémoire même des âges, visage de l'aube du monde, ne t'ouvre pas comme un col tendre pour émouvoir ma chair. Je t'adore, ô beauté de mon œil monocorde.
Léopold Sédar Senghor.
J'ai cherché consciemment un langage et un rythme qui respectent la langue française tout en restant fidèle au génie de la négritude. C'est ainsi que dans mes derniers poèmes, dans Éthiopique par exemple et dans les élégies, mes versets sont faits le plus souvent de vers blancs binaires, c'est-à-dire de vers de 4, 6, 8, 10 ou 12 syllabes. Ce rythme binaire est le plus fréquent en Afrique, encore qu'on y trouve souvent des rythmes trinaires. Mes poèmes doivent être lus comme sont récités les poèmes africains, avec accompagnement d'instruments à percussion. Encore une fois, les instruments à percussion accompagnent. Mes poèmes doivent être lus sur un rythme monotone. Je dis accompagnement, car les instruments doivent souligner et non dicter le rythme du récitant.
Guy Tyrolien est guadeloupéen. Très impliqué dans le combat de la négritude, il va aussi participer à la création du magazine Présence africaine, tout en bâtissant une œuvre mondialement reconnue. Voici Black Beauty, extrait de Balle d'or en 1961. Tes seins de satin noir frémissant du galop de ton sang, bondissant, tes bras souples et longs dont le lycée ondule, ce blanc sourire des yeux dans la nuit du visage éveillent en moi, ce soir, les rythmes sourds, les mains frappées, les lentes mélopées dont s'enivrent là-bas au pays de Guinée, nos sœurs noires et nues, et font lever en moi, ce soir, des crépuscules nègres lourds d'un sensuel émoi, car l'âme du noir pays où dorment les anciens vit et parle ce soir, et la force inquiète le long de terrains creux et l'indolente allure d'une démarche fière qui laisse, quand tu vas, traîner après tes pas, le fauve appel des nuits que dilate et qu'emplit l'immense pulsation des tam-tams en fièvre, car dans ta voix surtout, ta voix qui se souvient, vibre et pleure ce soir, l'âme du noir pays où dorment les anciens.
We'll be right back. détroit de Gibraltar, y'a un jeune noir qui pleure un rêve qui prendra vie une fois passé Gibraltar. Sur le détroit de Gibraltar, y'a un jeune noir qui se demande si l'histoire le retiendra comme celui qui portait le nom de cette montagne. Sur le détroit de Gibraltar, y'a un jeune noir qui meurt sa vie bête de gangsta rappeur. Mais sur le détroit de Gibraltar, y'a un jeune homme qui va naître, qui va être celui que les tours empêchaient d'être. Sur le détroit de Gibraltar, y'a un jeune noir qui boit, dans ce bar où les espoirs se bousculent, une simple canette de Fanta. Il cherche comme un chien sans collier le foyer qu'il n'a en fait jamais eu, et se dit que peut-être, bientôt, il ne cherchera plus. Et ça rit autour de lui, et ça pleure au fond de lui. Faut rien dire et tout est dit. Et soudain il se fait derviche tourneur. Il danse sur le bar, il danse, il n'a plus peur. Enfin il hurle comme un fakir, de la vie devient disciple. Sur le détroit de Gibraltar, il y a un jeune noir qui prend vie, qui chante, dit enfin je t'aime à cette vie. Puis les autres le sentent, le suivent. Ils veulent être or puisqu'ils sont cuivres. Comme ce soleil qui danse, ils veulent se gorger d'étoiles et déchirer à leur tour cette peur qui les voile. Sur le détroit de Gibraltar, il y a un jeune noir qui n'est plus esclave, qui crie comme les braves, même la mort n'est plus entrave. Il appelle au courage celles et ceux qui n'ont plus confiance, il dit « Ramons tous !» À la même cadence. Dans le bar, il y a un pianiste et le piano est sur les genoux. Le jeune noir tape des mains, hurle comme un fou. Fallait qu'elle sorte cette haine sourde qui le tenait en laisse, qui le démontait pièce par pièce. Sur le détroit de Gibraltar, il y a un jeune noir qui enfin voit la lune le pointer du doigt et le soleil le prendre dans ses bras. Maintenant il pleure de joie, souffle et se rassoit. Désormais l'amour seul sur lui a des droits. Sur le détroit de Gibraltar, un jeune noir prend ses valises, sort du piano bar, échange ses quelques devises. Encore gros d'émotion, il regarde derrière lui et embarque sur le bateau. Il n'est pas réellement tard, le soleil est encore haut. Du détroit de Gibraltar, un jeune noir vogue. Vogue vers le Maroc tout proche. Vogue vers ce Maroc qui fera de lui un homme. Sur le détroit de Gibraltar. Sur le détroit de Gibraltar, vogue vers le merveilleux royaume du Maroc. Sur le détroit de Gibraltar, vogue vers le merveilleux royaume du Maroc. Du Maroc.
Guillaume Gallienne sur France Inter. Ça peut pas faire de mal.
Le XXe siècle en France fut l'un des plus guerriers, l'un des plus meurtriers. Le poète turc Nazım Hikmet, qui a passé plus de la moitié de sa vie en prison et en exil, en fait le sujet de l'un de ses poèmes dans son recueil « Il neige dans la nuit », publié en 1948. Mon siècle ne me fait pas peur. Je ne suis pas un déserteur. Mon siècle misérable, scandaleux, mon siècle courageux, grand et héroïque. Je n'ai jamais regretté d'être venu trop tôt au monde. Je suis du XXe siècle et j'en suis fier. Il me suffit d'être au XXe siècle, là où je suis, d'être de notre camp et de me battre pour un monde nouveau.
Monsieur le Président, je vous fais une lettre que vous lirez peut-être, si vous avez le temps.
Et puisqu'il s'agit de batailles, en voilà une qui va se dérouler en Algérie. Tandis que des milliers de jeunes soldats sont appelés à faire la sale guerre, les poètes se saisissent de leurs plumes pour défendre le pacifisme. Parmi eux, Boris Vian et son fameux « Déserteur » et un journaliste kabyle, Jean Amrouche, qui dédie un texte à son pays natal. Voici « Le combat algérien ». Extrait de l'ouvrage « Espoir et paroles » publié en 1963. Alors vint une grande saison de l'histoire. portant dans ses flancs une cargaison d'enfants indomptés qui parlèrent un nouveau langage et le tonnerre d'une fureur sacrée. On ne nous trahira plus, on ne nous mentira plus, on ne nous fera pas prendre des vessies peintes de bleu, de blanc et de rouge pour les lanternes de la liberté. Nous voulons habiter notre nom, vivre ou mourir sur notre terre mère. Nous ne voulons pas d'une patrie marâtre et de riches reliefs de ses festins. Nous voulons la patrie de nos pères, la langue de nos pères, la mélodie de nos songes et de nos chants, sur nos berceaux et sur nos tombes. Nous ne voulons plus errer en exil, dans le présent, sans mémoire et sans avenir. Ici et maintenant, nous voulons, libres à jamais, sous le soleil et le vent, la pluie ou la neige, notre patrie Algérie. Cette liberté est celle d'Henri Michaud qui, déjà en 1939, déclarait « Un jour, j'arracherai l'ancre qui tient mon navire loin des mers. » Né en 1899, mort en 1984, il est poète, voyageur et veut écrire pour se parcourir. Ses poèmes, aussi doux que révoltés, ne ressemblent à aucun autre. Dans « Poteau d'angle », en 1971, il livre quelques aphorismes essentiels. Non pas acquérir, voyager pour t'appauvrir, voilà ce dont tu as besoin. Quoi qu'il t'arrive, ne te laisse jamais aller, faute suprême, à te croire maître. Il te reste beaucoup à faire, énormément, presque tout. La mort cueillera un fruit encore vert. Il faut un obstacle nouveau pour un savoir nouveau. Veille périodiquement à te susciter des obstacles, obstacles pour lesquels tu vas devoir trouver une parade et une nouvelle intelligence. Tu es contagieux à toi-même, souviens-t'en. Ne laisse pas toi te gagner. Ne te livre pas comme un paquet ficelé. Ris avec tes cris, crie avec tes rires. Lâche, tu as du courage. Mais où l'as-tu ? Tu ne le sais pas. Il est là comme étranger à toi. Sois donc plus chercheur, il est là, sot que tu es, endormi à cause de ton incurie, de ton incuriosité, et parce que devant de nouveaux commencements, tu te dérobes. Trouve le don. Sache n'importe où tu te trouves, reconnaître ton axe. Ensuite, tu aviseras. Ne proclame pas tes buts, même et surtout si tu les vois ou crois les voir, au départ déjà, te restreindre. Si affaissé, brimé, si fini que tu sois, demande-toi régulièrement et irrégulièrement « Qu'est-ce qu'aujourd'hui encore je peux risquer ?» Voici maintenant une page de son recueil « Moment », publié en 1973. Moment sans route, sans à côté, sans revenir, sans se réunir. Filant, indépendant. Un moment tige, un moment désarmé, un moment tout en prise, passe. Un moment précède, un moment se précipite, un moment appelle, l'écho d'un moment. Un moment repasse, abandonne, s'aligne, s'enfonce. Un moment encore. Un moment sur place, un moment du commencement, du déplacement de soi. Un moment remue de fond en comble. Un moment d'absolu non. Un moment plus hésitant, un moment favorable, favorisant, accueillant, un moment merveilleusement accordé à moi. Un moment en retour de proue, un moment étudiant, un moment encore naïf, un moment qui seulement apprécie, qui ramène en arrière, qui guettait depuis longtemps. Un moment qui va tout changer, un moment incomparable. Un moment au fil de l'eau, sur l'aile du vent, retombant sur une foule de moments. Un moment glissant, perdu de vue. Un moment qui n'avance plus, qui laisse déjà entendre le piétinement du temps. Un moment encore à venir. Un moment frémissant, sans rature. Un moment qui traverse la route, qui n'insiste pas. Un moment qui a le poids d'un pétale de rose, qui plus tard pèsera comme plomb. Un moment comme sûrement il n'en viendra plus. Nomade sans moi. Moment léger, dans les boues radieuses, animés, minuscules affluents. Continuons avec d'autres poètes francophones du XXe siècle qui sont à l'honneur, donc dans cette 18e édition du Printemps des Poètes. Voici Richard Rogner. autre poète publié dans la collection Poésie Gallimard, dont, je le rappelle, nous célébrons cette année les 50 ans d'existence. Extrait de Élégie pour le temps de vivre. Quoi donc, avec le temps, s'est mis entre nos corps? Quelle pauvreté du cœur, quel immense chagrin du fond de la mémoire, quoi? Donc, et nous qui ressemblons à ce que nous voulons éviter, nous, que la tristesse a jeté en travers de l'été comme la pluie jette les roses à terre avec l'orage? Quoi donc peut nous sauver en nous effaçant, en brûlant notre nom avec les étoiles et qui, en nous, plus fort que nous, aussi puissant que la montagne, sauvera ce qui reste de nous entre nos doigts désespérés, nos doigts, nos bras, nos yeux embués de larmes parce que ce rien qui aurait pu nous ressembler s'est perdu dans le sauvage écoulement de la vie que la montagne n'a pas reconnue. Oh, la montagne plus forte, plus généreuse que nous, montagne de tendresse et de fleurs et d'arbres et de ruisseaux, montagne dont les reflets dans le lac emportent à jamais nos élans, nos étreintes. Montagne, fille et femme, montagne, grande mère attentive, comment sauver les regards que nous avons laissés mourir sous tes rocs, dans tes sources? Comment reprendre à ton corps ce qui appartenait au nôtre, ce qui t'illumina le temps d'une saison que l'amour avait cru immortelle saison?
Après chaque janvier vous tombe un février, et après on s'enlace, arrive un mois de mars. Tiens, c'est le mois d'avril, viendra celui de mai. Quand on se croit tranquille, c'est juin qui s'y remet. En tous ces mois, disons-le-nous, de vous à vous. En tous ces mois, combien de fois êtes-vous tombé folle de moi? Novembre, porte close, l'enfant roi n'est pas né, mais le Père Noël pose devant la cheminée. Et puis revient janvier, et puis revient janvier. Et puis revient janvier.
Le poète Zeno Bianu a lui aussi conçu la poésie comme une force de vie, la preuve avec Credo, extrait du recueil Infiniment proche. Je crois à la vie, à la mort, à la grande amour donnée ou traversée. Je crois à la vraie gravité, à la tendresse impitoyable. Je crois au cœur de la nuit, au cœur de la pluie. Je crois qu'il faut mourir, puis vivre, mourir avant de mourir, pour ne plus aimer mourir. Je crois à l'entrée en résonance, à l'entrée en évidence, à toute transparence. Je crois ne rien pouvoir haïr de ce que j'ai fait. Je crois au regard renversé. Je crois que chacun peut sortir vivant d'ici. Je crois au rassemblé, à l'ouvert, au levé, au tremblé, au centième de soupir. Je crois que tout mot juste vient de l'intérieur du ciel et que le ciel vrille au plus profond de nous. Je crois à la ferveur fluide, je crois qu'il faut anéantir pour magnifier. Je crois à Artaud lorsqu'il faisait l'exposition Van Gogh au pas de course pour mieux la regarder, pour mieux la restituer. Je crois, comme le Conrad du cœur des ténèbres, qu'il faut avancer dans sa propre obscurité pour y voir clair. Que le frémissement ne peut jamais surgir là où sont la honte, la haine, la peur. je crois à l'opacité solitaire, au pur instant de la nuit noire, pour rencontrer sa vraie blessure, pour écouter sa vraie morsure. Je crois à ces chemins où le corps avance dans l'esprit, où l'on surprend le bruit de fond des univers par ces yeux que la nuit a pleurés en nous, par ces yeux que la vie a lavés en nous. Je crois qu'il faut prendre appui sur le vent, s'agenouiller en mer et se vouer à l'infini. L'infini, le Marocain Abdelatif Lahabi en a rêvé pendant plusieurs années, alors qu'il était emprisonné pour avoir contesté l'ordre social et politique de son pays. Torturé pendant plus de 10 ans, il n'a pas oublié les petites choses du quotidien qui permettent de ne pas renoncer à la vie. Elles sont extraites de son recueil « L'arbre à poèmes ». Les petites choses seront peut-être les grandes de demain ou d'hier. Un nuage malingre plus bas que les autres, même au ciel, il y a des canards boiteux. Si tous ces arbres se donnaient la main, ils feraient reculer le désert. Prends la vie, mais ne l'épuise pas. Ami, où en sommes-nous de nos rêves de jeunesse? Nous voulions surprendre le monde, il nous a surpris. Si nous écoutons vraiment la musique, elle nous écoutera. Il faudra un jour nous excuser auprès de la terre et nous retirer sur la pointe des pieds.
Abdelatif Lahabi.
La poésie, pour moi, est une raison de vivre, une raison de continuer à vivre malgré tous les écroulements qu'on est en train de voir autour de nous et même en nous. Pour moi, la guerre du Golfe a été une sorte de proclamation d'un moment où on a proclamé un ordre nouveau, un ordre mondial nouveau. Nous vivons aujourd'hui une époque historique où on est en train de passer d'un ordre du monde à un autre. Et c'est cela où je situe ma réflexion et ma pratique poétique d'aujourd'hui. C'est-à-dire essayer de comprendre le monde dans lequel nous vivons, où nous nous acheminons, quelles sont les interrogations qui se soulèvent avec ce passage d'un ordre ancien à un ordre nouveau, comment reconstruire le sens du monde et peut-être surtout, parce que je suis poète et avant tout poète, comment reconstruire la langue.
Ça peut pas faire de mal.
Cette émission, réalisée par Xavier Pestudia avec Julie Garraud à la technique, a été préparée par Estelle Gap, Laura El-Maki et Valérie Bourg. Bonne soirée et à la semaine prochaine.